Bonsoir, chers auditeurs de Radio Courtoisie. Bonsoir Virginie, qui réalise ce libre journal. Et comme Virginie vous l'a indiqué dans son annonce, vous pouvez nous envoyer des messages à l'adresse électronique suivante, courtoisie@rc.fr. Et ce soir, notre libre journal de la souveraineté aura pour thème la situation politique de la France entre les élections municipales 2026 et l'élection présidentielle de 2027. Et pour nous entretenir de cette situation, je reçois l'éminent politologue bien connu de nos éditeurs, Étienne Lahir. Bonsoir Étienne Lahir.
Bonsoir Michel Leblé.
Merci d'être notre invité ce soir, Étienne Lahir. Alors, nous, échangeons régulièrement sur la situation politique de la France dans ce libre journal de la souveraineté. Et à ce jour, la France se situe entre deux échéances électorales, celle passée des élections municipales, celle à venir de l'élection présidentielle en avril-mai 2027. Les publications de sondages pour cette élection présidentielle sont multiples. Pour autant, à moins d'un an de cette élection présidentielle, les événements qui surviendront à l'extérieur comme à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, avec leurs conséquences, sont susceptibles d'influer sur le vote des Français, ne donnant à ces sondages qu'une valeur indicative. Si, depuis 1965, l'élection présidentielle et la campagne qui la précède représentent le moment essentiel de la vie politique française, celle de 2027 recèle une interrogation particulière avec la possibilité de l'élection d'un représentant du Rassemblement national. Ce parti, né en 1972 sur la dénomination de Front National, n'avait réuni que 0,75% des suffrages exprimés à l'élection présidentielle de 1974 comme aux élections législatives de 1978. Si une victoire en 2027 est loin d'être acquise, comprendre les raisons de la progression de cette formation, comme celle beaucoup plus récente de la France insoumise, nécessite de se pencher sur l'évolution de la société française depuis un demi-siècle et les bouleversements sociologiques, démographiques et économiques qu'elle a subis. Loin de la croissance économique des Trente Glorieuses, celle-ci est maintenant atone, avec ses effets en termes de précarité et d'endettement public. Parallèlement, au fil des ans, imprégné par une pensée formée dans les années 1960, il s'est développé un individualisme aux limites sans cesse repoussées, ouvrant la voie à une décomposition sociale. Dans celle-ci, s'engouffre une immigration venue d'autres aires de civilisation, transformant par son nombre la démographie du pays, et qui, par le jeu de cette primauté des droits de l'individu sur le destin collectif, l'amène, tout au moins pour une partie, à vouloir vivre selon la culture et les mœurs qui lui est propre, loin de celle du pays d'accueil. Le redressement touche entre autres à l'économie, à l'éducation, mais aussi à notre loi suprême, la Constitution, par rapport à laquelle, Étienne Lahir, vous nous ferez part de votre réflexion. Alors je vous propose, Étienne Lahir, que vous nous livriez d'abord votre analyse sur les résultats des élections municipales de mars 2026, puis, pour bien comprendre les élections de l'enjeu présidentiel, de l'élection présidentielle de 2027, pourriez-vous nous faire part de votre réflexion sur l'état de la société française ? Enfin, je le suppose, vous procéderez à un examen des rapports de force politique à un an de cette élection et vous vous pencherez sur la mise en œuvre de certaines propositions, principalement celles relatives à un référendum et une réforme de la Constitution avancée par plusieurs candidats. Alors d'abord, Étienne Lahir, donc, cette analyse des résultats des élections municipales de 2026.
Écoutez, nous avons eu des élections municipales globalement sans surprise, avec des tendances, un prolongement des tendances que nous observons depuis plusieurs années. La première de ces tendances porte sur le taux d'abstention. Ces élections municipales ont vu un taux d'abstention record sous la Ve République, exception faite bien entendu des élections municipales de 2020, dont le premier tour s'était tenu en période Covid. Lors de ces élections municipales, le taux d'abstention s'est élevé au niveau national à plus de 57%. Pardon, le taux de participation s'est élevé à plus de 57%. Il était de 7 points supérieur en 2014, dernières élections municipales comparables.
73,
C'est un
50,
phénomène.
63, 55, hein, oui, 7 points.
Voilà. Une chute assez spectaculaire qui s'est observée de manière assez homogène sur l'ensemble du territoire et qui a concerné particulièrement les petites communes de moins de 1000 habitants. Puisqu'en 2014, l'abstention dans ces petites communes n'était que de 24,7%, alors qu'elle s'est élevée cette fois-ci à 35,8%. Comment peut-on expliquer cette baisse de la participation dans les petites communes? Eh bien, sans doute en raison de l'évolution du mode de scrutin. Vous savez qu'auparavant, dans ces communes, les électeurs pouvaient panacher, c'est-à-dire qu'ils pouvaient rayer les noms qui ne leur convenaient pas sur les différentes listes en présence. Eh bien, cette fois-ci, le législateur a imposé un mode de scrutin uniforme dans l'ensemble des communes françaises, c'est-à-dire interdiction du panachage et scrutin de liste dans sa totalité. Ceci a entraîné dans les petites communes une baisse sensible de la participation, puisque dans de nombreux villages, une seule liste se présentait. Et donc les électeurs n'ayant plus la possibilité de rayer les noms des candidats qui leur déplaisaient, eh bien, se sont abstenus en masse. Ça a été l'un des effets pervers de cette évolution législative, qui était tout à fait prévisible, mais que le législateur n'avait pas souhaité entendre.
Alors, je crois que c'est important pour la suite des choses. Je vous propose, si vous voulez, de faire partie par partie, allant de l'extrême gauche vers la droite la plus radicale, dirons-nous. Alors, parce qu'on a connu avec ces élections municipales quand même des transformations, voire des bouleversements importants. D'abord, au niveau de la France insoumise, c'est, si j'ose dire, à ce niveau-là, la première fois qu'émerge non seulement un vote communautaire, mais l'accession à des postes de responsabilité municipale de personnes issues de l'immigration et dans des communes pour le moins importantes.
Alors, c'est en effet la première fois que des personnes issues de l'immigration accèdent à de telles fonctions en ayant tenu un discours tout à fait communautariste, voire racialiste pour certains d'entre eux. On avait déjà eu plusieurs élus ici, maires, députés issus de l'immigration, mais cet élément du discours n'était absolument pas central et dans la plupart des cas, d'ailleurs, il n'existait même pas. Cette fois-ci, on a assisté à des campagnes qui se sont axées très largement sur des dimensions communautaires. Et je vous citerai par exemple la ville de Bobigny, capitale des préfectures de la Seine-Saint-Denis, où le scrutin s'est joué, au dire même des différentes listes en présence, sur des dynamiques strictement communautaires. Donc, on ne tient même plus compte des idées, du débat politique en tant que tel, mais on sous-pèse un rapport de force qui met en jeu les communautés en présence. Une ville qui est emblématique, c'est celle de Saint-Denis, puisque Saint-Denis a été remporté dès le premier tour par le candidat LFI Bali Bakayoko, qui est un de ceux qui, je dirais, se dissimule le moins le volet racialiste de son discours. Alors, il est intéressant pour nos éditeurs de mesurer en 30 ans l'évolution électorale d'une ville comme Saint-Denis. En 1995, j'ai retrouvé les résultats. À Saint-Denis, donc le maire sortant était Patrick Braouzec, communiste. Braouzec avait obtenu au second tour 58%, le candidat d'hiver droite 16% et le Front National de l'époque 26%. Front National était d'ailleurs, pour la petite histoire, représenté par Pierre Poti, qui n'était pas un modéré, qui était même un des plus radicaux de cette formation politique. Eh bien, sa radicalité ne l'avait pas empêché d'obtenir à l'époque un excellent score de 26% au sein de la commune de Saint-Denis. 31 ans plus tard, quels sont les résultats? Et au premier tour, M. Bagayoko, LFI, 51%. M. Hanotin, maire sortant, Parti socialiste, gauche du Parti socialiste, proche de Benoît Hamon, 33%. Le candidat d'hiver droite obtient 3%. Un candidat centriste obtient 3%. Et une candidate du groupuscule d'extrême gauche Révolution permanente obtient 7%. Par conséquent, en 30 ans, le paysage politique au sein de la ville de Saint-Denis a totalement basculé. Et on se retrouve dans cette situation ubuesque, au terme de laquelle, au conseil municipal de Saint-Denis, c'est M. Hanotin qui représente donc M. Hamon, qui représente la droite de l'hémicycle. Le centre étant occupé par M. Bagayoko et la gauche par Mme Marcel de Révolution permanente, qui tient des discours absolument délirants contre la police, contre les institutions, contre la justice, contre tout. Et si vous voulez, c'est tout à fait significatif de l'évolution des communes dites populaires comme Saint-Denis, mais Saint-Denis n'est pas un cas isolé. Prenons par exemple des villes comme Goussainville, comme Clichy-sous-Bois. Je rappellerai qu'aux européennes de 2024, LFI obtenait moins de 10% au niveau national, mais dans ces villes-là, 40% à Goussainville, 57% à Garges-lès-Gonesse et 58% à La Courneuve, 48% à Vaux-en-Velin. Donc on mesure à quel point dans les villes que je viens de citer, le changement de population a modifié sans doute de manière irrémédiable l'équilibre politique.
Alors ça, je crois que c'est très important ce que vous dites. Alors, il y a un point sur lequel je voulais vous interroger. Il paraît qu'à Saint-Denis, l'abstention était relativement importante. Est-ce que cela est vrai? Est-ce que vous l'avez constaté?
Oui, effectivement, la participation n'est que de 43%. Mais je dans ces villes-là, l'abstention différentielle, en règle générale, est défavorable aux insoumis. Donc là, on peut même dire qu'avec un tel niveau de participation relativement faible, eh bien les résultats à l'élection présidentielle ou à une élection réunissant davantage d'électeurs seraient sans doute encore plus favorables à la France insoumise.
Alors ça, nous y reviendrons, mais c'est un élément extrêmement important du bouleversement du paysage politique pour ces 50 dernières années. Alors, de gauche vers la droite, si j'ose dire, nous avons les écologistes qui sont souvent assez proches d'ailleurs de la France insoumise, mais qui, eux, lors de cette élection, ont essuyé des revers, puisque en 2020, ils avaient gagné quand même 6 villes importantes, Bordeaux, Strasbourg, Besançon, Poitiers, Annecy et Colombes, et ils ont conservé Grenoble, Tours, et s'agissant de Lyon, s'ils ont conservé la municipalité de Lyon, ils ont perdu par contre le Grand Lyon.
Donc, oui, absolument. Lyon a été conservé par les écologistes, alors même que quelques semaines auparavant, les sondages anticipaient une victoire écrasante de Jean-Michel Aulas. Jean-Michel Aulas a d'une part fait une mauvaise campagne. Il a, contrairement, et c'est assez contre-intuitif, sans doute pâti du meurtre de Quentin, puisque ceci a eu pour effet non pas de constituer un repoussoir contre les candidats de gauche, mais au contraire d'agréger celle-ci autour du maire écologiste sortant contre une menace fasciste parfaitement imaginaire et parfaitement fantasmée. Et dans la dernière ligne droite, le maire sortant Doucet a été réélu. Ce qui confirme par ailleurs que dans les grandes villes comme Lyon, Paris ou Marseille, la sociologie politique fait désormais que, quel que soit le bilan des maires sortants, eh bien, il est quasiment impossible pour la droite, ou en tout cas pour l'opposition, de l'emporter. Et s'agissant des autres villes que vous avez citées, je reconnais que ça a été un petit peu une surprise en ce qui me concerne, parce que je pensais que les écologistes étaient dans des villes qui leur étaient sociologiquement très favorables, et que par voie de conséquence, les conserveraient assez facilement. J'avais sans doute mésestimé deux choses. J'avais mésestimé leur faible capacité gestionnaire. par rapport au Parti socialiste, par exemple, qui le socialisme municipal date de la Troisième République, donc le PS a l'habitude de gérer des exécutifs locaux. Ça n'est pas le cas des Verts. Et par ailleurs, j'ai mésestimé leur sectarisme et leur rapport idéologique à la politique, qui leur a fait sans doute prendre dans un certain nombre de villes des décisions manifestement contraires aux aspirations même de leurs électeurs. Et à Strasbourg, par exemple, c'est très intéressant, c'est Catherine Trautmann qui avait été élue pour la première fois en 1989, qui a ravi la ville aux écologistes dans le cadre d'une triangulaire extrêmement disputée. Les écologistes semblent avoir bénéficié de certains reports des insoumis. Et Madame Trautmann, même si le candidat de droite s'était maintenu, a vu se reporter sur son nom les électeurs de la liste macroniste du premier tour et une partie des électeurs de droite.
Alors, ce qui fait que, globalement, les écologistes qui, dans les années 2000-2010, avaient, si j'ose dire, plutôt le vent en poupe, là, contrairement à la France insoumise, eux, ils régressent, incontestablement. Alors, est-ce qu'ils
Oui, il
régressent
règle.
parce que, ils se heurtent, je dirais, à l'incompétence, des personnes qui dirigeaient ces municipalités? Ou c'est un mouvement plus général, avec peut-être une bascule d'électeurs écologistes vers la France insoumise et d'autres qui ont quitté pour d'autres formations politiques le vote écologiste.
Le vote écologiste a toujours été très fluctuant. On l'observe notamment entre les élections européennes, où généralement c'est une année très bonne, une élection très bonne succède à une élection très mauvaise pour les écologistes. Il n'y a pas vraiment de prévisibilité. Généralement, ils font des bons scores aux élections européennes quand le débat public porte sur les questions environnementales. Et assez naturellement, l'électorat considère que les Verts sont les mieux disants, à tort ou à raison, concernant les questions environnementales. Mais dès lors qu'il s'agit de désigner un exécutif, ou en tout cas de mettre quelqu'un aux commandes, que ça soit à la présidentielle ou au municipal, si l'on excepte les dernières municipales de 2020, généralement les écologistes sous-performent. Ce qui prouve qu'ils ont malgré tout un déficit de crédibilité dès qu'il s'agit de se voir confier les commandes par les électeurs.
Alors, mais en 2024, la performance quand même aux élections européennes avait été moyenne, c'est le moins qu'on puisse dire, pour les écologistes.
Moyenne, mais justement, elle succédait à une bonne performance en 2019.
Oui, c'est
Donc,
vrai.
C'est assez difficile à prévoir, c'est un électorat qui est très mouvant et qui a tendance souvent à se déplacer vers la liste de gauche qui a le plus le vent en poupe du moment.
Donc un vote utile.
Un vote utile, absolument.
Alors, nous avons vu les écologistes, maintenant le Parti socialiste, hein, qui, avec les Républicains, la droite, était, je dirais, les grands, je dis, élus locaux, enfin les deux grandes formations qui fournissaient des élus locaux. Là, en l'occurrence, le Parti socialiste, au niveau national, en renonçant, soi-disant, à tout accord avec la France insoumise, mais a conclu des accords techniques, dits des fusions techniques, avec la France insoumise, avec des résultats mitigés, si l'on peut dire.
Avec globalement des résultats mitigés dès lors qu'il s'agit de ces accords techniques, mais globalement une performance très satisfaisante pour le PS qui conserve la majorité de ses bastions, évidemment Paris et Marseille en priorité, mais également ces bastions de l'Ouest comme Rennes et Nantes, ou ces bastions du centre comme Dijon. Il n'y a qu'à Clermont-Ferrand et à Limoges où le PS s'est vu ravir la ville par les listes de droite. D'ailleurs, à Limoges, ça n'était pas, c'était un maire de droite sortant, pardon.
C'est à Clermont-Ferrand, on y reviendra d'ailleurs sur Clermont-Ferrand, ça.
C'est à Clermont-Ferrand que le Parti socialiste a perdu. Il faut y voir largement l'usure du pouvoir, puisque Clermont-Ferrand est socialiste depuis plusieurs décennies, et également sans doute l'incapacité de la municipalité sortante à appréhender les questions liées à la sécurité et au narcotrafic qui sont en train d'exploser en ce moment et qui ont motivé une partie de l'électorat clermontois à choisir l'alternance.
Alors, ce qui est intéressant, justement, sur Clermont-Ferrand, c'est que le candidat de droite l'a emporté et qu'au second tour, selon un article du Monde d'ailleurs, le candidat du Rassemblement national a perdu les trois quarts de ses électeurs au bénéfice du candidat de droite. Donc, on a eu un report donc d'une partie des trois quarts des électeurs du Rassemblement national du premier tour vers le candidat de droite. Donc, il y avait bien une volonté de battre le candidat socialiste sortant.
Oui, tout à fait. Ça, c'est très net. C'est un phénomène qui est assez classique dans les triangulaires, qu'on avait pu observer notamment lors des triangulaires pour les municipales de 1995 et pour les législatives de 1997, qui voyaient la plupart du temps le Front National arriver en troisième position. Et dès lors que le candidat Front National ne pouvait pas emporter l'élection, une partie significative de son électorat de premier tour se reportait sur le candidat de droite pour faire battre le candidat de gauche. Et plus le scrutin était serré, plus la perte subie par le Front National était forte. Donc là, on est dans le cas clermontois, je dirais quasiment au paroxysme de cette dynamique, puisque la chute est absolument spectaculaire, et que les électeurs de premier tour du RN ont vu une chance historique, d'obtenir le basculement auquel ils aspiraient.
Alors, donc, ça veut dire, Étienne Lahire, que vous ne partagez pas forcément le jugement du journal Le Monde, qui, dans un article du 26 mai 2026, écrivait: les électeurs de droite sont mûrs pour participer à l'élection d'un candidat d'extrême droite. En fait, vous ne voyez pas, à travers cet exemple, je dirais, un élément vraiment exceptionnel, enfin, dont on pourrait tirer, au vu disons, des évolutions actuelles, un enseignement particulier. C'est finalement un phénomène qui a déjà été observé auparavant.
Oui, c'est un phénomène relativement classique. Ce qui peut surprendre, c'est son ampleur qui est très forte. Mais il faudrait que je me replonge dans les municipales de 1995. Je pense que j'arriverai à vous trouver quelques situations à peu près similaires où le Front National avait très fortement baissé entre les deux tours au profit du RPR ou de l'UDF de l'époque.
Donc ce n'est pas, je dirais, l'annonce vraiment de changements radicaux en ce domaine par rapport à l'électorat. Alors, la majorité présidentielle, bah, elle était pour le moins très faiblement implantée et finalement elle n'a remporté que Bordeaux avec Thomas Cazenave, mais d'une très courte tête, si j'ose dire, puisque Thomas Cazenave a réuni 50,95% des voix, des suffrages exprimés, tandis que Pierre Urmic, je veux dire, a réuni 49,05. Donc il a gagné, mais enfin, d'assez peu, il faut dire ce qui est, c'est pas net.
Oui, tout à fait. La victoire bordelaise est un petit peu, pour la Macronie, l'arbre qui cache la forêt. Elle a été obtenue, de surcroît, après retrait surprise de la liste de l'économiste Philippe de Sertine,
Tout à fait,
qui
oui.
était en position de se maintenir au second tour, qui avait annoncé après le premier tour son intention de se maintenir et qui finalement a choisi de se retirer, sans pour autant fusionner avec Cazenave. Et il est à peu près certain que sans ce retrait, le maire écologiste sortant aurait été réélu. Une autre victoire un peu moins significative de la Macronie, c'est à Annecy, où l'ancien éphémère ministre de l'économie Thomas Armand l'a emporté face au maire écologiste sortant. Enfin, ces deux victoires ne tiennent pas lieu de consolidation pour le camp présidentiel, qui a vu ses candidats balayés dans la plupart des grandes villes dans lesquelles il se présentait. Je pense notamment à Lille, où la députée Violette Spilbou a fait un score absolument déplorable. Je pense à Orléans, où l'ancienne députée Caroline Janvier a fait 7%. Les macronistes qui ont été élus, qui avaient été élus dans la vague de 2017, ne se sont, sauf exception, pas implantés localement, ce qui est très significatif de leur, je dirais, leur côté hors sol structurel. Là, au bout de 9 ans, la Macronie est un échec politique et électoral flagrant.
Oui, tout à fait. Je crois que à partir du moment où, en 9 ans, les macronistes n'ont pas réussi à s'implanter localement, ça veut dire qu'ils ne s'y implanteront jamais. Et d'ailleurs, pour la suite des choses et même pour l'élection présidentielle prochaine, c'est peut-être riche d'enseignements. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un socle électoral structurel pour ce que représente la Macronie ou le socle, le bloc central, je ne sais plus exactement, il y a plusieurs dénominations, mais en fait, il n'y a pas d'implantation locale, donc c'est un mouvement qui, à terme, est amené à, pas forcément à disparaître, mais à diminuer, pour le moins, en importance au niveau national, très probablement.
Oui, c'est probable que l'élément liant était la personnalité de Macron. Même s'il y a une cohérence idéologique au sein de la Macronie qu'il ne faut pas nier, ils n'ont pas réussi à transformer l'essai et à s'implanter localement, comme avait su faire, par exemple, l'UDR à partir des municipales de 1971, quand le mouvement gaulliste avait commencé à gagner des villes. C'était très peu le cas en réalité entre 1959 et 1965, mais le mouvement gaulliste avait su se réinventer après la mort du général de Gaulle et avait su créer une implantation locale. Ça ne semble pas être le cas du mouvement macroniste.
Alors, il faut dire qu'il y avait incontestablement, avec le gaullisme, une partie de la droite, un socle sociologique, si j'ose dire, qui n'existe pas avec la Macronie.
Oui, absolument, tout à fait.
Alors, les Républicains, ben les Républicains qui sont les héritiers lointains du parti gaulliste, mais qui bénéficient de l'héritage et de l'implantation dont vous parlez, eh bien, ce sont d'une certaine manière les gagnants de cette élection, puisque à la veille des élections, ils dirigeaient 78 villes de plus de 30 000 habitants, je crois, et à l'issue de ces élections, ils en dirigent encore 74. Donc, une faible perte et donc probablement les mieux implantés de l'ensemble.
Alors, les mieux implantés, oui, mais dans les villes moyennes.
Tout à fait,
C'est-à-dire
oui.
que à l'inverse, dans les grandes villes, les Républicains n'ont jamais été aussi faibles, ce qui est assez logique, ce qui s'observe à peu près partout dans le monde. C'est-à-dire que ce courant de droite conservatrice est en chute libre dans les grandes villes, dans les métropoles mondialisées. On observe ce phénomène absolument partout. Là, nous avons assisté à des élections qui, contrairement à celles de 2008 ou de 2014, n'ont pas vu de vague nationale contre le gouvernement en place. En 2008, on avait assisté à une vague très nette hostile à Nicolas Sarkozy, et en 2014, à Ressac, et une vague très nette contre François Hollande. Ces deux vagues avaient profité respectivement au Parti socialiste, puis à l'UMP de l'époque. Là, nous avons assisté au contraire à des élections qui dépendaient largement de la strate de la commune correspondante. Et effectivement, dans ces villes moyennes de province, les Républicains se maintiennent en raison essentiellement de la qualité de leurs gestionnaires locaux. Ce sont des gens qui sont implantés de longue date et qui sont parvenus à se faire réélire, y compris dans des villes qui votent à gauche au niveau national. Je pense par exemple à Angers, où le maire sortant, je ne sais plus s'il est LR ou s'il est Horizon, mais en tout cas il est de centre droit, Béchu, a été réélu très largement, alors même qu'Angers vote assez massivement à gauche au niveau national. Il y a quelques exemples comme cela qui montrent que si les Républicains n'ont plus d'idées, plus de programmes et plus véritablement de poids politique dans les élections nationales. Il conserve encore une assise locale. Un petit peu d'ailleurs, je fais écho à notre échange à l'instant, un petit peu d'ailleurs comme les indépendants entre 1959 et 1970. C'est une formation politique qui déclinait au profit du gaullisme au niveau national, mais qui localement parvenait encore à garder ses bastions. Et je pense que les Républicains sont à peu près connaissent à peu près une dynamique identique.
Alors ça, c'est très intéressant ce que vous dites, parce que quand on voit en effet le parcours du Centre national des indépendants, qui s'est fondu dans cette majorité de droite, d'origine gaulliste, et surtout avec l'accession au pouvoir de Georges Pompidou, là on verra par rapport aux Républicains quel peut être leur devenir, sachant qu'il y a un autre parti, évidemment, qui a progressé, peut-être pas autant que certains pouvaient le penser, c'est le Rassemblement national, qui ne réalise d'ailleurs, qui s'empare en effet de 8 municipalités de plus de 30 000 habitants, mais qui ne réunit dans ces territoires que, je crois, aux environs de 11% des suffrages exprimés globalement.
Oui, effectivement, le Rassemblement national a enregistré un certain nombre de victoires, certaines inattendues. Je pense notamment à Carcassonne, je pense notamment à Castres, je pense à des villes comme cela des villes moyennes, que je ne voyais pas tomber dans l'escarcelle du Rassemblement national. Il a conservé la totalité de ses villes conquise en 2020, ce qui est assez révélateur de la qualité de la gestion locale, qui est appréciée par les électeurs. Il l'a emporté également dans des petites villes en déclin. Je pense notamment à La Flèche. Et il l'a emporté dans d'autres types de villes qui sont des villes du Sud-Est, je dirais de droite un petit peu radicalisées. C'est-à-dire là où effectivement la porosité entre l'électorat Rassemblement national et droite classique est très forte depuis les années 80, et très forte à la fois électoralement, mais surtout idéologiquement. Et souvent dans des villes où les municipalités LR étaient usées, je pense notamment à Menton, eh bien le Rassemblement national a pu tirer son épingle du jeu et l'emporter. Quelques échecs importants à relever toutefois, le cas de Toulon, où malgré un excellent score de premier tour, je crois autour de 41 ou 43%, eh bien Laure Lavalette ne parvient pas à transformer l'essai. On voit d'ailleurs systématiquement les limites que rencontre le Rassemblement national quand il est opposé en duel à un candidat de droite classique. Là, nous avons une maire de droite qui était, je dirais peut-être pas la meilleure candidate de premier tour qui soit, mais qui a su drainer au second tour la quasi-totalité des gens qui ne voulaient pas d'un maire Rassemblement national à Toulon. Toulon, je le rappelle aux plus jeunes de nos auditeurs qui avaient connu une expérience plus que contrastée avec Jean-Marie Le Chevalier, élu en 1995 dans le cadre d'une triangulaire et battu à plate couture lors des municipales de 2001, puisque maire sortant, il n'avait obtenu que 7% des voix. Donc il est possible que cet élément et jouer chez une partie de l'électorat toulonnais. Autre défaite d'une courte tête dans une grande ville, Nîmes, où le Rassemblement national dirigé par Julien Sanchez a échoué dans le cadre d'une triangulaire qui l'opposait à LR et au Parti communiste. Deux listes de droite s'affrontaient au premier tour, elles ont fusionné et le candidat de droite a obtenu un très faible score, moins de 20% des voix, mais ce sont autant de voix qui ont manqué à Julien Sanchez pour lui permettre de ravir la ville au Parti communiste et le Parti communiste l'a emporté avec 2 points d'avance. C'est la première victoire du Parti communiste à Nîmes depuis 1995 et je pense que c'est désormais la seule grande ville dirigée en France par le Parti communiste.
Alors, Étienne Lahire, je crois qu'il faut signaler quand même le bon résultat de Franck Alizio à Marseille, qui a quasiment éliminé la candidate républicaine.
Alors, bon résultat, oui, je vous rejoins, puisqu'il a obtenu un résultat historique. Le Rassemblement national n'avait jamais obtenu un tel score à Marseille. Mais je crains, si vous voulez, que nous soyons un petit peu à Marseille, dans la situation de Dreux et de Mulhouse en 1995. C'est-à-dire que le Rassemblement national atteint son pic et la démographie des villes que j'ai citées fait que d'élection en élection, il ne pourra plus obtenir un score aussi important et il risque probablement de chuter au profit de la gauche. Dans les deux villes que j'ai citées, Dreux et Mulhouse, qui étaient des bastions du Front national dans les années 1990, aujourd'hui, je crois qu'à Dreux, il n'y a pas eu de liste cette fois-ci. Et à Mulhouse, le Rassemblement national a dû faire moins de 15% en raison de l'évolution démographique des villes. J'ai un petit peu peur qu'à Marseille, nous soyons dans une situation similaire.
Si bien qu'on retrouve le raisonnement de Christophe Guilly, la France des métropoles et la France périphérique. Et pour prolonger mon observation, vous parliez tout à l'heure, en effet, de l'importance de l'abstention et du fait que dans les petites communes, avec l'impossibilité de panachage, il y a eu une abstention importante. Et est-ce que, justement, cette abstention importante ne masque pas le score que pourrait réaliser dans ces territoires ruraux le Rassemblement national à une prochaine élection présidentielle.
Clairement, parce que c'est effectivement dans ces petites communes que le Rassemblement national obtient désormais ses plus gros scores. Par rapport aux années 1980, on a une structure géographique de l'électorat Rassemblement national qui est à front renversé. Dans les années 80, plus vous étiez dans une grande ville, plus vous aviez de chances de voter Front national. Et inversement, quand vous viviez dans un petit village, ben, il était très rare que vous votiez en faveur de Jean-Marie Le Pen. Je rappelle que Jean-Marie Le Pen obtenait ses plus faibles scores à l'époque dans les départements les plus ruraux, Corrèze, Ariège, Lozère, Gers et autres. Et désormais, c'est au contraire dans les départements les plus urbanisés que le Rassemblement national obtient ses scores les plus faibles. La Seine-Saint-Denis, qui était un de ses bastions en 1988 et 1995, est aujourd'hui devenue une des terres de mission. Alors, il est probable, effectivement, que les élections municipales n'aient pas relayé très exactement cette dynamique électorale, puisque le Rassemblement national est relativement peu implanté en termes militants dans ces petites communes et n'a pas été à même de constituer de listes dans la plupart des cas.
Mais il n'empêche, oui, c'est ça, que, comme vous le soulignez très bien, il progresse au-delà des municipales, il progresse dans ces territoires ruraux. Et nous voyons très bien la partition géographique qui s'opère. Et là, nous entrons dans les éléments de contexte qui précèdent, si j'ose dire, l'analyse ou les perspectives de l'élection présidentielle de 2027. On assiste à des bouleversements sociologiques dans l'électorat. Il y a en effet maintenant l'importance de l'électorat de l'origine immigrée, le fait que le Parti communiste, qui était un parti extrêmement représenté parmi les territoires ouvriers ou les milieux ouvriers, voire éventuellement employés, même si les socialistes leur disputaient dans cette catégorie-là, une partie d'électorat, on assiste à des bouleversements très importants, c'est-à-dire que le Rassemblement national, maintenant, réunit cet électorat populaire, si j'ose dire, de souche, alors que la France insoumise, s'oriente et réunit un électorat d'origine immigrée. Et comment, je dirais, voir cette évolution qui s'opère à la fois territorialement et sociologiquement, et que nous voyons que les partis traditionnels ont perdu largement leur influence.
Oui, bien sûr, le Parti communiste n'existe quasiment plus. Il conserve encore certains bastions municipaux en Normandie et dans le nord de la France, mais en tout cas, il ne pèse plus au niveau national. Il ne cesse de décliner depuis l'élection présidentielle de, 1988. En 1981, Georges Marchais avait obtenu 15,5%, et à l'époque, on avait considéré que c'était un très faible score
Tout à
et une
fait.
claque électorale pour le Parti communiste. Et déjà, les électeurs communistes avaient voté utile au premier tour en se portant sur François Mitterrand. Mais au-delà du vote utile, il y a une inadéquation sociologique entre le Parti communiste d'aujourd'hui et les aspirations de l'électorat populaire. Quand vous voyez que le Parti communiste est représenté par quelqu'un comme Ian Brossat, ben, je comprends que l'ouvrier du Pas-de-Calais n'ait plus tout à fait envie de voter Parti communiste. Bon, c'est un parti qui a, je dirais presque, qui assiste à son propre déclin en tant que spectateur. Alors Fabien Roussel tente de parfois de retrouver une ligne un petit peu national-populaire en tenant des propos de fin de banquet, mais ça n'aura pas pour effet de rabattre les gens, rabattre cet électorat vers le Parti communiste. Et les évolutions auxquelles nous assistons, qui voient l'électorat populaire de souche se porter massivement sur l'Assemblée nationale et l'électorat d'origine immigrée se porter sur LFI, sont renforcés à chaque élection. À chaque élection, nous avons une polarisation croissante de ces électorats, et c'est là où les élections municipales sont trompeuses. Si on s'en tient strictement aux chiffres, vous l'indiquiez, 8 villes Rassemblement national de plus de 30 000 habitants et 9 villes au total pour LFI. Au regard de ce bilan, on a l'impression que, eh bien, on est dans une situation politique tout à fait classique où ces deux mouvements sont encore marginaux. Ça n'est absolument pas le cas. Ces élections ont été principalement locales. Elles n'ont pas été des élections de sanction du pouvoir en place. Les électeurs ont fait la part des choses comme en 2020, et elle ne signifie pas un infléchissement des dynamiques observées jusqu'à maintenant en faveur de ces deux formations.
Alors, je crois que c'est très important ce que vous dites, et c'est là où on observe finalement tous les bouleversements qui sont intervenus dans la société française et depuis, je dirais, par rapport à ce qu'elle était depuis fort longtemps. Parce que, justement, si on regarde ce que fut l'histoire de la gauche, d'abord, je dirais, au début de la Troisième République, c'était une gauche défendant la République contre la monarchie et contre, je dirais, contre l'Église. Et puis au début du XXe siècle, au tournant du XXe siècle, ça a été l'ascension du socialisme avec la création de la SFIO en 1905. Et l'apogée finalement de la gauche sous la Troisième République, ça a été le Front populaire en 1936. Le Conseil national de la résistance a, je dirais, conçu un programme plutôt socialiste à gauche. Mais ce qui est intéressant, c'est que 1936, donc on a l'arrivée au pouvoir du Front populaire. 45 ans plus tard, en 1981, eh bien, à travers François Mitterrand, qui n'était pas Léon Blum, enfin, on a, je dirais, l'apparence finalement d'une majorité de Front populaire avec un programme commun de nationalisation. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons 45 ans après l'accession au pouvoir de la gauche et de François Mitterrand, et on voit toute l'évolution qui a été parcourue, c'est-à-dire cet électorat sociologiquement qui votait à gauche en 1981. Pour une part, maintenant, vote pour le Rassemblement national, 45 ans plus tard, d'ailleurs. 45 ans, 36, 81, et puis 81, 2026. Je ne sais pas, qu'en pensez-vous?
Bien, écoutez, je viens de retrouver à l'instant une phrase du projet socialiste de 1981. Je vais vous la lire et je pense que les auditeurs n'en croiront pas leurs oreilles. Donc, phrase du projet socialiste de François Mitterrand. L'État national demeure le cadre privilégié de l'action politique. Rien de grand, enfin, ne s'est jamais fait dans les temps modernes qu'appuyer sur un puissant sentiment d'identité nationale. On pourrait croire une phrase issue du programme du Rassemblement national.
Tout à fait.
Eh
Tout à
bien,
fait.
il s'agissait encore d'une phrase du Parti socialiste, sans doute inspirée par Jean-Pierre Chevènement, parce que Jean-Pierre Chevènement, qui animait le CRS à l'époque, était très influent et avait permis notamment à François Mitterrand de remporter le congrès de Metz face à Michel Rocard en 1979. Donc, il est probable qu'il y ait une patte chevènementiste derrière cette phrase, mais en tout état de cause, elle serait aujourd'hui imprononçable par un cadre, un élu ou un militant du Parti socialiste. En réalité, ce ne sont pas les électeurs qui ont abandonné le Parti socialiste, c'est le Parti socialiste qui a abandonné son propre électorat. Et il l'a abandonné en suivant très précisément la dynamique européenne. Puisque le Parti socialiste, a fait évoluer toutes ses positions au nom de l'Europe, au nom de l'acte unique, au nom de la monnaie unique, au nom de tous les traités qui ont procédé à un approfondissement de la communauté puis de l'Union européenne. Et quand il écrivait dans son projet en 1981, rien de grand ne s'est jamais fait dans les temps modernes qu'appuyer sur un puissant sentiment d'identité nationale, eh bien aujourd'hui le Parti socialiste est devenu structurellement un parti post-national. Et par conséquent, c'est cela qui explique largement la bascule de son électorat de l'époque vers d'autres formations politiques et en premier lieu vers le Rassemblement national. Le Parti communiste a connu la même évolution puisqu'il a fait la bêtise de participer au gouvernement en 1981. Il a participé au gouvernement en 1981 jusqu'à 1984. Et il s'est, aux yeux de ses électeurs de l'époque, largement discrédité et il n'a jamais pu s'en remettre. Le Parti communiste de Maurice Thorez, lui, avait eu le tact de soutenir le gouvernement Blum sans y participer, ce qui lui préservait une porte de sortie par la suite, qu'il a, et même plusieurs portes de sortie, qui lui ont permis de devenir en 1946 le premier parti de France. Bien. Eh bien, aujourd'hui, le Parti communiste est largement associé au Parti socialiste. Il a été totalement dilué quand il a participé au pouvoir, c'est-à-dire en 1981 et en 1997. Et aujourd'hui, je dirais que la majorité des formations politiques de gauche qui ont gouverné sont, de mon point de vue, structurellement discréditées auprès de la majorité de l'électorat français.
Alors, Étienne Heyer, nous allons passer un bobino et puis nous reprendrons ensuite ce libre journal.
Vous avez fait le choix de nous rester fidèles. Vous avez fait le choix d'écouter Radio Courtoisie. Vous avez fait le choix de nous soutenir parce que vous êtes libre. Parce que pour vous, tout comme Radio Courtoisie, la liberté de penser, la liberté de parler, la liberté de chercher sont primordiales pour vous. Radio Courtoisie vous offre désormais le choix d'écouter nos podcasts partout et tout le temps sur les plateformes Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music et sur notre site internet rc.fr et podcast.rc.fr. Gratuitement, pour que toujours cette liberté qui nous unit, qui nous est chère, demeure.
Merci Virginie. Alors Étienne Heyer, sans s'attarder sur cette évolution sociologique et politique, n'y a-t-il pas, pour expliquer justement cette désaffection d'une partie de l'électorat vis-à-vis de la gauche, deux éléments? D'abord, la montée en puissance de l'immigration, comme nous l'avons souligné, et puis aussi toute une pensée individualiste qui s'est développée, si bien que nous avons assisté à partir de la fin des années 70, début des années 80, à une substitution, le sociétal s'est substitué au social. Et est-ce que ces éléments-là, de toute manière, ne bouleversaient pas la donne politique pour ces partis, et notamment pour le Parti communiste, qui était un parti d'ordre finalement?
Absolument. Je cite souvent l'ouvrage de Régis Debray consacré à 1960, au mouvement 68 qui s'appelle Mai 68, une contre-révolution réussie. Régis Debray a écrit cet ouvrage en 1978, 10 ans après les événements, et il montre que les deux grands perdants du mouvement 68 ont été et la droite gaulliste et la gauche communiste. Au profit des formations intermédiaires, le Parti socialiste et l'UDF de Valéry Giscard d'Estaing. Profitant, comme vous l'indiquez, de la poussée d'individualisme qui était l'élément central de 1968 et qui favorisait une bourgeoisie qui avait envie de tuer le père et qui a tué le père en 1969 au moment du référendum, qui avait valu un jugement au général de Gaulle plein d'amertume et plein de lucidité. Il avait dit après les résultats, le peuple est encore patriote, la bourgeoisie ne l'est plus. Eh bien, cette bourgeoisie, effectivement, avait basculé d'abord vers Georges Pompidou, puis vers Valéry Giscard d'Estaing en 1974. Et de la même manière, le Parti communiste qui obtenait encore 21% des voix avec Jacques Duclos
En
en
1960.
1969,
Oui.
alors que le PS de Gaston Defferre avait été laminé à 5%, eh bien le Parti communiste a commencé à décliner, à la fois du fait de l'individualisme et de la volonté de certains de s'affranchir des structures traditionnelles telles que les syndicats, telles que les partis à dimension fortement intégratrice, comme le Parti communiste. Et il a également pâti, pardon, du phénomène de désindustrialisation et de modification substantielle des conditions de l'emploi qui ont amené les travailleurs à être de plus en plus individualistes, qui a pénalisé largement les organisations syndicales très représentées dans les usines, dans les industries, qui le sont beaucoup moins dans les métiers de service. Et aujourd'hui, effectivement, le Parti communiste n'a quasiment plus sa place dans le paysage politique français et il ne survit que de manière très artificielle dans des bastions quasiment préhistoriques.
Alors, Étienne Haïr, ce qui nous amène à prolonger vo votre réflexion, c'est-à-dire que dans les temps dont vous parliez, la notion de démocratie, la notion de suffrage universel étaient des notions incontestables, et même dans les démocraties populaires qui n'étaient pas démocraties, pour autant, si vous voulez, on ne remettait pas en cause ce principe de la représentativité, même si elle était, je dirais, pour le moins contrainte. Or, on assiste, avec la montée notamment du Rassemblement national, à une remise en cause de la démocratie représentative. Et parmi ces remises en cause, il y a eu, je dirais, une réflexion emblématique, c'est l'article de Pierre Rosanvallon qui est paru dans le journal Le Monde le 12 avril 2025. C'était à propos du procès contre Marine Le Pen et l'intitulé « Les juges incarnent autant que les élus le principe démocratique de la souveraineté du peuple ». Et partant de là, Rosanvallon conteste finalement la légitimité de la démocratie représentative à partir du moment où il n'y a pas un consensus total, il n'y aurait que majorité arithmétique, et par rapport à celle-ci, finalement, il met en avant la légitimité, finalement, des juges, et il écrit, les juges incarnent tout autant que les élus le principe démocratique de la souveraineté du peuple. Donc on assiste à une remise en cause donc de la démocratie représentative. Le problème ou la question qui est posée, c'est toujours cette question de l'état de droit. Et nous voyons donc, à travers notamment les décisions des juridictions judiciaires ou des juridictions administratives, et surtout du Conseil constitutionnel, finalement, la remise en cause à travers les censures répétées des différentes lois qui sont soumises, je dirais, à l'examen du Conseil constitutionnel, à une remise en cause finalement de l'élu, puisque rappelons-nous, sous la Troisième République par exemple, même sous la Quatrième, le pouvoir du législateur, la loi, était sans limite. Aujourd'hui, non seulement il y a un pouvoir réglementaire au titre des articles 34-37 de la Constitution, mais surtout le juge constitutionnel s'est érigé non seulement en censeur de la loi, mais presque en législateur lui-même. Alors, quelle réflexion vous attire cette évolution et dans le prolongement, comme certaines formations politiques, le Rassemblement national, Bruno Retailleau aussi, parle de référendum, je dirais avec des modalités qui sont assez floues. Que pouvez-vous nous dire sur ce sujet et par rapport à ces référendums? Quelles sont les possibilités qui peuvent être offertes, je dirais, aux gouvernants, je dirais, potentiels par rapport à la réalité actuelle de la Constitution et du juge constitutionnel?
Alors, si vous me permettez, je reviens dans un premier temps sur le rapport de la gauche au peuple et à la démocratie. Souvenons-nous, on va remonter très loin en arrière, souvenons-nous du procès du roi Louis XVI en 1792. Il y avait eu un important débat au sujet de l'Assemblée qui concernait les modalités de jugement de Louis XVI. Et certains avaient envisagé de consulter le peuple français sur le sort qui devait être réservé au roi. Et les plus hostiles à cette consultation du peuple étaient les Montagnards, et notamment Robespierre, qui considérait sans doute à juste titre que cette France très très majoritairement paysanne et très majoritairement catholique aurait fait preuve de clémence vis-à-vis du roi, infligeant ainsi une défaite politique à la gauche. Et tout au long de son histoire, la gauche a un rapport qui est très instrumental et très utilitariste au peuple. Vous l'évoquiez tout à l'heure, quand la gauche est majoritaire sociologiquement, c'est la plus favorable de toutes à la souveraineté sans limite du peuple. Je rappelle par exemple qu'en 1946, le PCF et la SFIO avaient proposé une constitution qui établissait un véritable régime d'assemblée. Constitution qui avait été rejetée par référendum en 1946. Et quand vous regardez la carte électorale de ce référendum, ce sont les régions de droite qui ont fait pencher la balance en faveur du non, et les régions de gauche, à l'époque c'était notamment le Sud-Est et le Nord-Pas-de-Calais, qui étaient tout à fait favorables au oui. Ce côté populaire de la gauche, c'est poursuivi jusque dans les années 80, quand la gauche était encore sociologiquement majoritaire et que l'idéologie dominante, croyait-elle, coïncidait avec l'opinion majoritaire. Ça n'est désormais plus le cas. Et je dirais même que jamais l'idéologie dominante, c'est-à-dire l'idéologie progressiste fondée sur les droits individuels, sur le primat absolu des droits individuels, eh bien jamais cette idéologie n'a été aussi rejetée par l'opinion majoritaire. Il s'ensuit que la gauche a fait basculer son centre de gravité du peuple vers le juge, et que celui qui ne devait pas participer au débat politique de la Révolution française jusqu'aux années 1970 est devenu, à la fois par l'évolution du Conseil constitutionnel, mais également dans les esprits de gauche, une sorte d'arbitre de dernier ressort du débat démocratique. Et l'article de Rosan Vallon que vous évoquez est très intéressant. Le juge est désormais considéré comme une espèce de sage, infaillible, dont la fonction consiste à préserver la République des passions populistes. Et vous l'avez observé vous-même, mais nous pouvons l'observer à chaque instant, dans la classe politique, qu'il s'agisse de la Macronie ou qu'il s'agisse des formations de gauche, la critique de la démocratie directe et de la démocratie représentative n'a jamais été aussi forte. La gauche, qui était partisane d'un régime d'assemblée en 1946, est aujourd'hui la principale partisane du statu quo, c'est-à-dire cette configuration républicaine qui voit le Conseil constitutionnel siéger au-dessus de toutes les autres institutions. Ça n'est pas acceptable et ça n'est absolument pas conforme tant à l'esprit du constituant qu'au souhait de l'opinion majoritaire. Alors, face à cette situation, des propositions d'évolution foisonnent. Il s'agirait de, pour les uns, de réviser la Constitution, pour les autres, de consulter le peuple sur l'immigration, peut-être en révisant d'abord la Constitution, on ne sait pas trop. Bah, tout cela est un peu flou dans les propos des différentes formations de politiques de droite qui aspiraient à une refonte institutionnelle. Et vous, puisque vous m'y invitez, je vais faire un point, vous m'en excuserez, qui est un peu technique, mais qui est important
c'est
pour les
essentiel,
auditeurs.
Essentiel.
Je crois que c'est important. Il y a en réalité deux modalités qui ont été utilisées sous la Ve République pour réviser la Constitution. L'article 11 et l'article 1989. L'article 11 avait été utilisé en 1962 par le général de Gaulle pour soumettre au référendum l'élection du président de la République au suffrage universel direct. Pourquoi le général de Gaulle avait-il eu recours à cette procédure de l'article 11? Eh bien, parce qu'à l'époque, le Sénat lui était hostile, et en particulier son président, lui était hostile. Et que le projet de loi qu'il voulait soumettre au référendum n'aurait pas été validé en tout état, n'aurait pas été voté dans des termes identiques par l'Assemblée nationale et par le Sénat. Ça, c'est une condition requise par la procédure de l'article 89. Vote identique dans les deux assemblées. Et pour contourner le Sénat, en réalité, le général de Gaulle avait eu recours à la procédure de l'article 11, en 1962 comme en 1969. À l'époque, cela n'avait pas posé de problème politique et de problème juridique. Seulement, entre-temps, plusieurs événements sont intervenus. Le général de Gaulle est mort, évidemment, mais surtout le Conseil constitutionnel a organisé sa propre montée en puissance. Et il a acquis par des jurisprudences successives un rôle qui n'était pas prévu initialement par le constituant. Et en ce qui concerne la procédure référendaire et la procédure de révision constitutionnelle, le Conseil constitutionnel s'est déclaré compétent pour apprécier la constitutionnalité du décret de convocation des électeurs aux opérations référendaires. C'est-à-dire que si concrètement aujourd'hui, un chef d'État utilisait l'article 11, comme l'avait fait le général de Gaulle, c'est-à-dire en tentant de court-circuiter le Sénat, eh bien, le Conseil constitutionnel, saisi par n'importe quel électeur, se prononcerait sur la régularité du décret de convocation aux opérations référendaires et le censurerait très probablement pour détournement de procédure. Détournement de procédure parce qu'il existe un article dans la Constitution spécifiquement dédié à la révision constitutionnelle, qui est l'article 89, et le Conseil constitutionnel dirait sans doute qu'aucune circonstance ne justifiait de ne pas avoir recouru à un tel article. Donc la seule modalité, à mes yeux, qui soit juridiquement correcte pour procéder à un référendum portant révision de la Constitution, c'est le recours à l'article 89, qui suppose, je le rappelle, un vote dans les mêmes termes du projet de loi soumis par le président de la République, par les deux assemblées, Assemblée nationale et Sénat. C'est très délicat politiquement à mettre en œuvre, mais c'est une condition nécessaire. Il faut absolument que les différentes formations politiques que nous avons citées, qu'il s'agisse de LR, du Rassemblement National, de Reconquête ou de l'UDR, intègrent cette dimension.
Et ce qui n'est pas le cas actuellement, puisque en fait les propositions sont floues, parce que le Rassemblement National part d'un référendum sur l'immigration à valeur constitutionnelle, ce qui ne veut pas dire grand-chose au vu de la Constitution et des articles 11 et 89.
Oui, absolument, tel qu'il l'envisage. D'une part, le projet est flou et extrêmement imprécis tant sur les modalités portant sur la politique d'immigration que sur son volet constitutionnel. Donc, en l'état actuel des choses, ça, c'est quelque chose qui n'est pas abouti, qui n'est pas prêt. Il faut que le Rassemblement national affine son projet et présente quelque chose qui soit juridiquement correct, parce que sinon, il s'exposerait immanquablement, et quelle que soit la légitimité démocratique dont il disposerait à l'issue d'une victoire à l'élection présidentielle, il s'exposerait immanquablement à la censure du Conseil constitutionnel. Et je rappelle que les décisions du Conseil constitutionnel sont insusceptibles de recours.
Alors, je crois que c'est très important ce que vous dites, parce que votre démonstration n'est pas simplement une démonstration formelle, en ce sens que, à travers le référendum tel qu'il est envisagé aussi bien par le Rassemblement national que par le candidat des Républicains, il s'agit de peser sur l'immigration comme sur les problèmes de sécurité. Et vu les décisions du Conseil constitutionnel qui s'accumulent au fil des années, il met en avant en effet l'exercice des droits individuels qui vont en faveur de l'immigration et qui limite les possibilités législatives en matière de rétablissement de la sécurité. Je pense par exemple à l'élargissement aux mineurs l'abandon de l'excuse de minorité. Ce qui fait que, dans les circonstances présentes, une partie des programmes de ces formations politiques ne pourrait pas être appliquée, ce qui est là un problème de fond.
Oui, vous avez parfaitement résumé la situation. Aujourd'hui, les formations politiques se concentrent exclusivement sur les objectifs à atteindre et non sur les moyens pour y parvenir. Et quand on est en charge de l'élaboration d'un programme politique, et quand on a un minimum de sérieux, on doit se pencher sur les deux aspects et présenter aux électeurs un programme abouti. Aujourd'hui, aucune formation politique ne présente de programme abouti, puisqu'aucune formation politique ne vous dit comment elle envisagerait de réviser la Constitution et quel serait le contenu de la dite révision constitutionnelle.
Donc, ce qui veut dire qu'en effet, c'est extrêmement important pour, la mise en œuvre des programmes, parce que nous l'avons souligné, nous ne reviendrons pas, nous avons des flux migratoires réguliers ou irréguliers qui sont maintenant hors de contrôle. De plus, ça, c'est encore un autre problème extrêmement important. Nous avons une situation économique particulièrement détériorée. Donc, nous arrivons à moins aujourd'hui, dans un an, il y aura un nouveau président de la République. Donc, par rapport à cette élection présidentielle à venir et que le pays peut encore être traversé par des événements qui peuvent modifier les rapports de force, et au vu de ce que vous venez de dire, d'ailleurs, par rapport au problème d'une réforme constitutionnelle, quel est aujourd'hui, par rapport à cette élection présidentielle, l'état des forces politiques et quelles sont les possibilités ou les impossibilités pour le Rassemblement national, qui sera très certainement présent au second tour, de faire élire son candidat?
Alors, s'agissant du Rassemblement national, il y a un premier sujet qui se pose, c'est l'identité de son candidat. Celle-ci sera connue après la décision de la Cour d'appel de Paris, qui sera rendue le 7 juillet prochain, et dans cet arrêt, la Cour confirmera ou infirmera le jugement de première instance qu'avait infligé à Marine Le Pen une peine de prison assortie d'une peine complémentaire d'inéligibilité. Aujourd'hui, il me semble très peu probable que Marine Le Pen obtienne gain de cause. Il faudrait pour cela que la Cour d'appel qualifie les faits de manière différente des juges de première instance, ce qui l'obligera à revenir sur un arrêt de la Cour de cassation rendu en 2018, ça m'apparaît hautement improbable. Donc, il est probable que le candidat du Rassemblement national soit Jordan Bardella, avec les qualités et les défauts qu'on lui connaît, c'est-à-dire les qualités, chacun les connaît, c'est un bon communicant, c'est quelqu'un qui est en phase avec son époque, qui est extrêmement maîtrisé dans son expression publique, dans les termes qu'il emploie et dans ses prises de position, il rappelle un petit peu Macron de 2017, c'est-à-dire que tout est calculé chez lui. Il n'y a absolument rien qui est.
Je crois que c'est très important ce que vous dites, l'absence peut-être de spontanéité. Hein.
Bien sûr.
Hein,
Et j'allais vous
je me
dire,
suis
il
permis de
allait.
vous interrompre, mais je crois que c'est un élément très important qui peut peser dans une campagne électorale.
À juste titre, puisqu'il a les défauts de ses qualités. Il manque effectivement un petit peu de spontanéité, il manque un petit peu d'empathie, il manque un petit peu également de maîtrise technique de ses dossiers. C'est quelqu'un qui est très bon récitant, si vous voulez. Je ne suis pas sûr qu'il soit bon dans l'improvisation et dans, pour reprendre une expression managériale insupportable, qu'il soit bon en dehors de sa zone de confort. Donc ça, c'est un élément très important. Il n'a que 30 ans. C'est quelqu'un dont on avait déjà un petit peu perçu les limites lors de la campagne législative en 2024. Je ne sais pas s'il aura suffisamment de ressources personnelles, de capital politique et d'épaisseur intellectuelle pour tenir le choc dans le cadre d'une campagne électorale. N'oublions pas par ailleurs que actuellement, Jordan Bardella est en train de se recentrer et de gagner l'électorat LR. Et de guigner le monde économique. Attention toutefois à ne pas commettre la même erreur que Jean-Marie Le Pen en 2007, qui considérait que sa base populaire était acquise et qu'il n'était plus nécessaire de parler des thèmes traditionnels du Rassemblement national et de ne plus parler d'immigration. On a vu ce qu'il est advenu. Jean-Marie Le Pen avait connu une chute par rapport à 2002 au profit de Nicolas Sarkozy, qui était un candidat à la fois plus jeune et plus innovant sur ces questions.
Alors, nous parlons donc de Jordan Bardella. Alors, comme Jordan Bardella et comme le Rassemblement national parlent de référendum, il m'arrive un message et je crois que la meilleure solution, c'est que je vous lise tout de suite pour recueillir votre avis avant que nous passions à la suite, je dirais, des formations par rapport à cette élection présidentielle. Alors, j'ai un auditeur qui nous envoie un message très intéressant. Merci. La Constitution est en grande partie l'organisation des pouvoirs publics, voire manuelle. L'article 11 peut modifier l'organisation des pouvoirs publics, donc la Constitution. On peut l'utiliser, à mon sens, votre avis. Justement, vous allez parfaitement nous répondre. D'ailleurs, vous nous avez déjà répondu dans la démonstration remarquable que vous nous avez faite.
Non, effectivement, cet auditeur a tort dans la mesure où la Constitution prévoit un article spécifique sur ces modalités de révision et que c'est au prix d'une interprétation audacieuse et, on va dire, établie pour les besoins de la cause que le général de Gaulle avait pu recourir à l'article 11 en 1962 et en 1969. Et en tout état de cause, quelle que soit l'exégèse que l'on puisse faire à titre personnel, des dispositions de l'article 11, eh bien, c'est le Conseil constitutionnel qui sera, en dernier ressort, l'arbitre concernant la bonne utilisation ou pas de cet article. Et pour ma part, je pense que sa jurisprudence, constante depuis l'an 2000, ne fera aucun doute en cas de contestation par n'importe quel citoyen français du décret de convocation des opérations référendaires.
Merci, Étienne Heyer, de cette précision, parce que c'est important, parce que une partie non négligeable du programme du Rassemblement national repose sur cette possibilité de référendum. Alors, quant aux autres forces politiques, avant d'aborder les Républicains et la Macronie, peut-être regardons à gauche. À gauche, vous avez LFI, bon, avec un candidat affiché, dont certains commentateurs disent qu'ils peuvent partir relativement bas et monter haut et éventuellement envisagent sa présence en second tour. Et puis, vous avez la gauche hors LFI, et notamment le Parti socialiste, pour l'instant, qui n'a pas de candidat, Raphaël Glucksmann étant un peu en marge du Parti socialiste. Alors, je voulais voir votre, je dirais, analyse par rapport à la gauche, en vous posant une question, puisque je disais que le Parti socialiste, pour l'instant, n'a pas de candidat, il est question de primaire, mais ne croyez-vous pas qu'il y a un candidat qui pourrait se révéler à l'automne, qui est l'ancien président de la République, François Hollande, qui pourrait éventuellement changer la donne à gauche?
Il y pense depuis 2016 et il reste extrêmement frustré de ne pas avoir eu suffisamment de capital politique à l'époque pour se représenter. S'il s'était représenté, il aurait été battu à plate couture au premier tour parce que son mandat avait été catastrophique. 10 ans après, qu'en est-il? Je suis un peu sceptique. C'est un remarquable tacticien, c'est un homme d'appareil qui se complaît dans l'organisation des congrès, dans la synthèse des motions, dans la fédération de courants initialement antagonistes à son profit. C'est vraiment l'homme de parti typique de la Quatrième République. Pour autant, nous n'avons jamais assisté, sous la Ve République, à un tel retour. Souvenez-vous la manière dont Nicolas Sarkozy avait tenté de revenir en 2016. Quand Nicolas Sarkozy se déplaçait sur le terrain, il rencontrait encore une certaine popularité auprès des militants, ses dédicaces de livres réunissaient un public relativement nombreux, il y avait encore une force militante sarkozyste, en tout cas au sein des Républicains à l'époque. Je ne sens pas véritablement aujourd'hui de mouvement identique en faveur de François Hollande à ce stade. L'élément qui pourrait faire basculer les choses, comme souvent, ce sont les sondages. Et actuellement, les sondages donnent tous une même situation, c'est-à-dire que si Jean-Luc Mélenchon devait affronter un candidat du Rassemblement national, il serait battu à plate couture au second tour. Alors d'une part, je ne crois pas du tout à un écart de cette ampleur. Je crois que si l'élection avait lieu aujourd'hui, entre un candidat RN et Jean-Luc Mélenchon, le RN l'emporterait, mais de manière beaucoup moins large que ce que les sondages prédisent. Mais par ailleurs, il faut anticiper un éventuel vote tactique de la part des électeurs et une capacité à choisir au premier tour le candidat qui, à leurs yeux, serait capable de battre le Rassemblement national au second tour. S'il apparaît, sondage après sondage, que Jean-Luc Mélenchon n'est pas dans ce cas de figure, eh bien, il est possible qu'il y ait une perte en ligne à son détriment au profit d'un autre candidat. Et il est même possible qu'on assiste à la constitution d'une sorte de troisième force qui aille de la droite du Parti socialiste aux Républicains et qui serait en quelque sorte une Macronie élargie. Parce que la Macronie ne cesse de s'élargir idéologiquement au fur et à mesure qu'elle perd du terrain électoralement. Et il y a au sein de l'agrégat bourgeois, je préfère parler d'agrégat bourgeois plutôt que de bloc central, il y a toute une série de candidats qui ont trop à perdre d'un second tour qui opposerait Jean-Luc Mélenchon à Jordan Bardella. Et qui pourrait, en négociant des postes, en négociant des avantages, en négociant des nominations pour leurs proches, constituer une sorte de rassemblement hétéroclite qui s'appellerait, je ne sais pas, peut-être Rassemblement républicain et européen, vous voyez, quelque chose de flou, de vague, mais qui consiste à proposer aux électeurs l'analyse suivante: vous ne voulez pas du Rassemblement national. Majoritairement, la seule solution pour éviter l'élection du Rassemblement national, c'est que Jean-Luc Mélenchon ne soit pas l'adversaire du dit rassemblement au second tour. Et par conséquent, il s'agit de se réunir au premier tour afin d'obtenir, autour d'un candidat qui soit le plus petit commun dénominateur de notre sensibilité et qui seul serait à même, le cas échéant, de battre Jordan Bardella au second tour. C'est une hypothèse qui n'est pas discutée aujourd'hui, je ne l'ai jamais vue évoquée dans la presse, mais à mes yeux, elle serait à la fois conforme aux capacités de, ou à la plasticité, pour rester poli, des différentes forces en présence, et elle serait conforme à une simple logique tactique.
Mais à ce moment-là, François Hollande aurait difficilement sa place, parce que trop marqué par le socialisme. Donc c'est un candidat de type Édouard Philippe qui pourrait l'emporter, si j'ose dire.
Oui, c'est à mes yeux l'hypothèse principale, et je fais écho à notre hypothèse, à notre discussion de tout à l'heure concernant l'élection municipale de Toulon, où malgré un score très important au premier tour, la candidate du Rassemblement national a été battue au second tour par une candidate de centre droit qui avait pu rassembler la totalité du spectre politique sur son nom, contre, pas sur son projet, mais sur contre le Rassemblement national. Et un petit peu à l'instar du second tour des législatives de 2024, qui avait vu l'alliance de fait entre la gauche et la Macronie l'emporter contre le Rassemblement national, eh bien je n'exclus pas du tout qu'une alliance de cette nature, élargie jusqu'à LR, cette fois, se constitue pour éviter la victoire de Jordan Bardella.
Alors ça veut dire que... Oui, je vous en prie, oui.
Et pardon, je me permets de vous interrompre. Non, et c'est un petit peu ce que me laisse entendre les comportements de gens de débris du chiracisme que sont Xavier Bertrand, Jean-François Copé, Nathalie Kosciusko-Morizet et autres, qui sont en train petit à petit de se désolidariser de Bruno Retailleau et de lui faire comprendre qu'ils ne le soutiendront pas. Vous savez, Talleyrand avait une formule célèbre en politique, la trahison, c'est une question de date. Eh bien, je crois que Xavier Bertrand, Copé, Kosciusko-Morizet et autres sont en train de prendre date et sont en train d'ores et déjà de dire que Bruno Retailleau n'est pas l'option qui serait susceptible de réunir le spectre politique que nous avons évoqué et qu'ils lui préféreront très probablement un candidat plus central.
Donc, cela veut dire que le Parti socialiste pourrait éventuellement, ou certains de ses dirigeants ou représentants, se rallier à une candidature de centre, que Bruno Retailleau serait étriqué, je dirais, par rapport, je dirais, à son électorat potentiel. Ça veut dire une forme de recomposition politique. Et la question que je voudrais poser, imaginons que ce bloc constitué derrière Édouard Philippe et que Édouard Philippe gagne l'élection présidentielle, pour autant, ne risque-t-on pas de se retrouver dans une situation relativement analogue à la situation actuelle, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas de majorité parlementaire ou véritablement des majorités de circonstances?
Oui, c'est très probable. C'est très probable, même si cet agrégat nouvellement constitué se présentait sous une étiquette majorité présidentielle aux élections législatives, eh bien, il est probable que les électeurs, une fois le danger Rassemblement national passé, reprennent leurs billes et retournent vers des formations politiques traditionnelles. Et que nous nous retrouvions à nouveau avec cette Assemblée nationale éclatée, qui correspond, il faut le dire, à la réalité politique du pays. Aujourd'hui, aucun grand bloc n'est susceptible de réunir pour une en faveur d'une politique plus de 51% des voix. Et il me semble probable, en effet, que la situation de 2024 ne doivent pas être regardées comme une anomalie démocratique ponctuelle, mais comme une préfiguration d'un éclatement durable.
Alors ça, je crois que c'est extrêmement important, puisque ça veut dire que, contrairement à ce que pensent certains, l'élection présidentielle ne résoudrait pas, je dirais, la crise actuelle, mais nous enverrions le prolongement vers quel destin, c'est difficile à dire. Alors j'ai une question, excusez-moi, parce que je vous prie de m'excuser, Étienne Nahir, une question d'auditeur, mais nous ne pourrons pas y répondre ce soir. Je voulais dire qu'elle est très importante, mais nous n'aurons pas le temps d'y répondre. C'est comment museler à terme le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État et la magistrature, mais je crois que ça nécessite presque une émission entière sur le sujet, puisque c'est un problème, une question qui est difficile à résoudre, mais je me permets de la souligner, puisque vu votre analyse de la situation constitutionnelle qui est tout à fait remarquable, toutes ces questions, finalement, sont, je dirais, se déclinent par rapport à votre analyse. Mais je crois que nous n'avons pas le temps aujourd'hui d'entrer dans ce type de réflexion, par ailleurs fort intéressante.
Oui, en tout état de cause, il serait possible de procéder à une révision constitutionnelle qui restreindrait le champ d'intervention du Conseil constitutionnel. J'ai expliqué comment y procéder via l'article 89, quelles étaient les conditions politiques de réussite de cette révision. Il y a également le problème des différents juges administratifs et judiciaires que l'auditeur évoque. Et n'oublions pas, je vous le rappelle à chaque émission, mais il faut le rappeler à nouveau, l'éléphant dans la pièce qui est l'Union européenne. Et je rappellerai à cet auditeur que la loi européenne prévaut sur la loi nationale postérieure.
Alors,
et que cette dimension...
Oui, je vous en prie, terminez, parce que malheureusement...
Cette dimension est connue depuis 50 ans, mais elle est occultée lors de chaque élection présidentielle.
Merci Étienne Nahir, et malheureusement, le temps a vite passé, mais nous apercevons à travers votre analyse que l'élection présidentielle de 2027 risque de ne pas aboutir justement à une stabilité politique telle que le souhaiteraient certains. Alors je vous remercie très vivement pour cette remarquable analyse politique et aussi cette remarquable analyse juridique au niveau d'une réforme éventuelle de la Constitution, parce que c'est un sujet qui est extrêmement important. Alors, chers auditeurs, ce Libre Journal sera rediffusé dimanche 7 juin à 21h30. Et puis, il vous sera possible de l'écouter sur le site de la radio et de le télécharger si vous êtes adhérent à l'association. J'encourage bien sûr nos auditeurs à des donations pour la radio, l'association de la radio. Alors merci Virginie pour la réalisation de ce Libre Journal. Merci encore une fois Étienne Nahir. Et le 2 juillet prochain, je vous annonce, chers auditeurs, que nous recevrons Roland Hureau pour l'analyse des situations internationales. Merci.
Vous venez d'entendre le Libre Journal de la Souveraineté, dirigé par Michel Leblé, diffusé en direct sur Radio Courtoisie jeudi 4 juin 2026, de 21h30 à 23h et réalisé par Virginie. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce Libre Journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.